Résonance sur Radio B. Alain Goudard, bienvenue à toutes et à tous. Une émission réalisée aujourd'hui et mise en onde par Simon Deborne. Henri Michaud, une vocation de passeur de musique. La musique, écrit Henri Michaud, le seul art, le véritablement naturel, et qui me paraissent comme physiologiques. Celui où j'ai goûté le plus d'œuvres et sans bouder mon plaisir, et de tout pays et de tout genre, sauf l'opéra et l'opéra comique, et par lequel je me sens plus étranger ou opposé aux autres hommes, comme il m'arrive presque toujours dans d'autres activités, et sur lequel j'ai le moins varié. Fin de citation. Qu'est-ce que la musique pour Henri Michaud ? Elle est l'art du mouvement, de l'inachèvement, par contraste avec l'écriture qui l'éloigne de l'accomplissement du pur, fort, originel désir, celui fondamental de ne pas laisser de traces. Michaud recherche les sons simples, primitifs, bruts. Ses commentaires sur l'art musical permettent de relever des traits de son esthétique, dont sa pratique musicale s'est fait l'écho. Mouvement performatif du corps, la musique est comprise comme un sentir-vivre, comme une façon de recueillir un savoir temporel, donc temporaire, sur soi. C'est le rapport que Henri Michaud tisse avec la musique que nous allons approcher ensemble au cours de cette présente émission.
Thank you.
Résonance sur Radio B, Henri Michaud, une vocation de passeur de musique. Et là, nous venons d'entendre l'un des compositeurs que Henri Michaud aimait bien entendre, aimait bien la musique. Et il s'agit de l'œuvre intitulée Sextet de 1994, composée par Christophe Penderecki pour piano, violon, viola, cello, clarinette et Frenchcore. Une œuvre vraiment très 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 intéressante, et on sent aussi tout ce qui pouvait justement intéresser Henri Michaud dans la démarche musicale de Christophe Penderecki. Henri Michaud donc est né à Namur le 24 mai 1899 et il est mort à Paris le 19 octobre 1984. C'était un écrivain, un poète, un peintre d'origine belge, d'expression française, naturalisé français en 1955. Amateur éclairé, Michaud canalise ses goûts musicaux dans deux directions principales. Il aime d'une part la musique de son temps, sérielle, minimaliste ou concrète, vouant un culte à Stockhausen et Berg, dont il apprécie tout particulièrement l'opéra de Wozzeck, et un intérêt marqué, comme nous venons d'entendre l'œuvre de ce compositeur, justement pour Christophe Penderecki, ou Phil Glass, ou encore François Bell. Thank you. Résonance sur Radio B, Henri Michaud, une vocation de passeur de musique. Et là, nous venons d'entendre, chers auditeurs, une œuvre d'un autre compositeur dont Henri Michaud aimait bien aussi s'aventurer dans les œuvres, en tout cas une esthétique qui lui parlait. Il s'agit de Karlheinz Stockhausen, né en 1928 et mort en 2007. Et l'œuvre que nous avons entendue, Gruppen, écrite en 1994, c'est une œuvre orchestrale justement qui travaille sur la spatialité puisqu'il y a trois orchestres dont l'un était dirigé par Karlheinz Stockhausen lui-même, un autre par Bruno Maderna, le célèbre chef italien, et un autre chef important français et compositeur, Pierre Boulez. Donc une œuvre que Karlheinz Stockhausen a composée de 1955 à 1957, et elle fut créée le 24 mars 1958 à Cologne, sous la direction des trois chefs et compositeurs que je vous ai indiqués, puisque effectivement, ces trois chefs étaient aussi de grands compositeurs. Destiné à un ensemble de 109 musiciens, pour parler un petit peu plus de cette œuvre de Stockhausen, divisée en trois groupes quasi identiques, Stockhausen vise, comme Varèse, 35 ans plus tôt avec Hyperprisme, la spatialisation de la musique, qui est ici sérielle, comme le précise le compositeur. Il écrit « Se mouvoir dans l'espace des groupes de sons d'un corps sonore à un autre et en même temps de diviser des structures sonores semblables. Chaque orchestre devait pouvoir appeler l'autre, donnant une réponse ou un écho. » Autre compositeur qu'Henri Michaud prisait, il s'agit de Poulenc, notamment, et il écrivait ceci. Vendredi, écrit-il, a lieu le festival Lewinsky, avec du Poulenc, du Stravinsky, pour lequel j'ai retenu une place. En ce moment, comprends-tu, c'est particulièrement ce qu'il me faut entendre. Thank you. Résonance sur Radio B, Henri Michaud, une vocation de passeur de musique. Et là, comme on venait de l'entendre sur ce petit mot, Henri Michaud indiquait que Poulenc, Stravinsky relevaient aussi son intérêt, sa curiosité. Et là, nous venons d'entendre un extrait du Sabbat Mater de Francis Poulenc. Francis Poulenc, compositeur né en 1899 et mort en 1963. Et là, c'était le premier mouvement, le Sabbat Mater Dolorosa, une œuvre imaginée en 1950 pour soprano, chœur mixte et orchestre, interprété ici par Michel Lagrange soprano, les chœurs et orchestre national de Lyon, placé sous la direction musicale de Serge Baudot. Rappelons que les chœurs étaient préparés par Bernard Tétu. Pour présenter maintenant encore un petit peu quelques mots sur le Stabat Mater de Poulenc. Poulenc avait écrit ceci justement. Il avait dit « D'abord, j'avais songé à écrire un requiem, mais je trouvais cela trop pompeux. C'est alors que juste l'idée d'une prière intentionnelle et que le texte bouleversant du Sabbat Mater me parit tout à fait indiqué à Notre-Dame de Rocamadour pour l'âme de ce cher Bérard. » Fin de citation de Francis Poulenc. Résonance sur Radio B, Henri Michaud, une vocation de passeur de musique. On évoquait Poulenc et Stravinsky, et là nous venons d'entendre justement la marche chinoise, une œuvre de 1950 composée par Igor Stravinsky, qui était né donc en 1882 et qui nous a quittés en 1971. Cette marche chinoise est extraite de Le Rossignol pour violon et piano, interprétée par deux grands artistes, Gérard Poulet au violon, Noël Lee au piano. De son opéra, Le Rossignol, justement, Stravinsky a adapté deux extraits, Air du Rossignol, constitué d'un assemblage des arias du premier et du dernier acte, et la marche chinoise du second acte, et c'est ce que nous venons de découvrir tous ensemble. Alors, outre toutes ces esthétiques et cet univers musical de son temps que Michaud appréciait, il appréciait aussi de même les musiques d'ailleurs, les gammes, les rythmes, des contrées éloignées, des civilisations extra-occidentales. Il confie que la première chose qu'il fasse en voyage, par exemple aux Indes ou au Mexique, c'est d'aller écouter leur musique. Le défi presque ethnomusicologique qu'il se lance consiste à s'imprégner de la musique des pays traversés, à découvrir l'organologie et les matrices rythmiques qui la conditionnent. À l'origine de cette forte curiosité figure un déni, la conviction que la musique occidentale s'attrotte et que l'art est tout à fait et avant tout affaire de son, de rythme, de cri ou de simple bruit. Michaud se fera une habitude des visites au musée de l'homme et y introduira de nombreuses demandes d'enregistrement ethnologique comme pour étoffer sa culture anti-occidentale de la musique. Convaincu du bien fondé de ses partis pris esthétiques, Michaud s'est rapidement taillé une vocation de passeur de musique. Il a ainsi fait connaître les musiques chinoises et japonaises à René Berthelet et Roland de Renéville, fait cadeau de nombreux enregistrements à Dubuffet, par exemple. Et maintes fois aussi, il a partagé ses impressions d'écoute et ses découvertes musicales à travers des échanges épistolaires.
Thank you.
Résonance sur Radio B, une vocation de passeur de musique. On évoquait que Henri Michaud s'intéressait aussi à l'Orient, à l'Asie. Et là, nous venons d'entendre justement de la musique traditionnelle du Japon, Edo Lullaby, où on avait les instruments suivants. La shakuhachi, le shamisen, la biwa, deux koteaux et des cloches. Écrivain et peintre, Henri Michaud était aussi expérimentateur, improvisateur, entre guillemets musicien enfant. Qu'il s'agisse de récits d'expérience, d'improvisation musicale sous hallucinogène ou de méditation, l'œuvre michaldienne est traversée par des présences sonores, bruit, voix, musique, jouée ou écoutée, hallucinations auditives, résonances, vibrations et silences pleins habitent momentanément cette écriture de l'ombre et laissent au passage, dans cette aventure du son, une forte impression sonore chez le lecteur. La musique, cet art du mouvement qu'il visite en insoumis pour survivre autrement qu'en trace, rester sans enregistrement, rend le temps sensible. C'est ce qu'écrit Rosie Lanoux Desland dans un extrait d'une étude sur Henri Michaud qu'elle a intitulée « On n'entend que ce qu'on écoute, l'expérience sonore et musicale chez Henri Michaud entre écriture et improvisation ». Résonance sur Radio B, une vocation de passeur de musique. Et là, on continue justement d'aller dans d'autres univers esthétiques, d'autres régions du monde. Et là, nous nous trouvions au Niger avec une musique des Touaregs, et notamment des tambours Tendé, avec une pièce intitulée « Akem et Grève ». Voilà, et toute cette richesse d'univers sonore que nous avons pu entendre vont nous emmener maintenant à découvrir un texte d'Henri Michaud intitulé « Musique en déroute » et que l'on retrouve dans un de ses ouvrages intitulé « Déplacement, dégagement ». J'acquis un jour un petit instrument de musique africain, petit même dans sa catégorie, tenant aisément dans la main. Sur une mince palette d'un beau bois brun sombre, 10 lamelles de fer. Il en manquait une, peut-être deux. Vieille, ébréchée, mal forgée, les survivantes étaient aussi mal insérées. J'étais, à cette époque, simplement en quête d'une senza, instrument au son discret, incapable de troubler et même d'atteindre l'oreille d'un voisin. Au premier son qui sortit de celui-ci, il fut reconnu hors d'usage. Je le pris néanmoins. Des années passèrent. Un jour de dégoût de tout, étant, après un accident immobilisé, étendu sans repos, pieds plâtrés, impotent, un matin donc, plus vite qu'un autre, le propre à rien que j'étais redevenu, songeait lourdement. Sur l'horizon de mes possibilités réduites, dans le vague je cherchais, quand mes regards rôdant de tous côtés rencontrèrent ce vieil objet mal en point, acquisition de mauvaise mémoire. L'humeur sombre, j'attrapais ce bancal, bancal comme moi. Dans la demi-obscurité de ce matin d'hiver, en ma chambre étroite et quasi sans le regarder, je laissais tomber sur lui un doigt, sans dessein particulier. Sur le champ, il répondit. Depuis peut-être 15 ans, non, 30 au moins, il était là, ne révélant pas son secret. Le petit instrument, dédaigné, venait de répondre. Il ne lui avait manqué jusque-là, pour le faire réagir, que de la brusquerie, du dégoût, un rageur découragement qu'à présent je pouvais lui apporter en abondance. Il n'émit d'abord qu'un cracra, comme eût fait un vieux corbeau cynique, le moins dupe des oiseaux, le plus impitoyable, qui jamais ne laissera sans l'achever l'être vivant petit ou grand, qu'il découvre momentanément incapable de défense. Cependant, je faisais à l'instrument répéter et répéter le signal de désolation, ce son dévastateur pour moi sauveur, l'expression têtue du sans-espoir, je l'écoutais avec avidité. Pas de discours, pas d'enchaînement. Seulement dénégation sur dénégation. Un unique son rébarbatif, il suffisait. Rien pour chanter, tout pour maltraiter chant et enchantement. Refus, refus d'emblée, brutalisant la complaisance toujours là, la concession qui, presque fatalement, vient avec le prolongement, avec la composition. Brusque, le son faisait sans effort revenir à ma mémoire les corbeaux au vol lent qui apparaissaient, précédés de leur criaillement lugubre près des falaises ou dans la campagne par temps venteux, lorsque les branches geignent ou cassent et que ces oiseaux de malheur aux funèbres appareils phonateurs lancent de façon à semer la panique où ils passent leurs cris insistants. Que les oisillons tombés du nid et les bêtes blessées gisant par terre perdent toute illusion sur leur avenir. Sinistre est la menace d'en haut. Imagination mise à part, le son que je continuais à susciter était un son cassé, qui ne pouvait se montrer que cassé. D'abord vibrant fortement, puis vivement écourté, comme venant d'un ressort qui se rompt, qui ne peut plus vibrer davantage. L'impression venait qu'il s'y refusait. La musicalisation semblait repoussée exprès. Aussi recommençait à vivre l'antique senza. Combien d'êtres désolés ou furieux, me disais-je, combien d'esclaves désemparés sur le continent noir s'étaient déjà confrontés avec elle, causant à la longue le brillant de l'extrémité des lames où leurs doigts errants en avaient tiré une désolation où ils se reconnaissaient. Le vieil instrument dérangé pouvait rendre cela comme aucune formation orchestrale ne l'aurait pu. Le criaillement et tout était dit. Cette seule lamelle y suffisait. J'étais tombé sur celle-là, rendant toute autre profération dérisoire. Psychothérapie parfaite, adaptée. Après avoir expérimenté et repris quantité de fois cette sorte de déclaration anti-musicale définitive, n'attendant plus rien au-delà, je décidai quand même de m'aventurer sur d'autres lamelles qui ne devaient pas avoir été mises là sans raison. J'en essaye une, puis une autre, toutes pour finir. Chacune insuffisante va dans ma présente insuffisance pouvoir me servir et au-delà de mon attente. Si petit que fût cet instrument, c'était comme si j'en avais eu quatre dans la main, quatre instruments absolument différents ou quatre débris, aussi différents qu'une viole l'est d'un tambour, sans relation l'un avec l'autre. Quatre pour décourager n'importe quelle entreprise musicale. D'abord, seulement pour intercepter, exclure toute mélodie parfaite, opposée à tout ensemble. Quoi que je puisse entreprendre en cette funeste période devait rester dans l'ellipse et m'arrêter. Si je m'obstinais, je culbutais invariablement sur une note d'un tout autre registre, d'une autre composition sonore. Ou bien, dernier recours, une lamelle mal calibrée bourdonnait et restait bourdonnante et dubitative. Individualité pour séparer, non pour unir. Pas du tout genre quatuor, pas davantage faite pour l'ornement ou pour la virtuosité. Aucun bon voisinage à attendre de ces perturbateurs. J'avais enfin trouvé et apporté de mes doigts une sorte d'ensemble instrumental, l'orchestre intempestif. Son orphelin, torchons musicaux, j'allais errant de l'un à l'autre. Pause, longue pause, des jours durant. Est-ce que j'allais retrouver notre entente ? Malgré un désir particulier que j'avais de retourner à la connivence éprouvée, j'hésitais à y revenir. Je n'avais plus, je ne pouvais plus avoir la magnifique révélation du début. À tort, j'étais inquiet. Cette petite senza de rien du tout avait encore bien des choses à m'enseigner. D'emblée, toujours en dissidence, touchée par mes doigts, elle me lâcha une rafale de refus. Mes contentements n'avaient pas diminué. L'humeur batailleuse, notre conjointe humeur, avait plutôt augmenté. De nouveaux essais eurent lieu, puis nouvel abandon. Après quelque temps, la senza se trouva bonne pour la divagation. Différents troubles s'ajoutaient à la mise en déroute de toute composition organisée. La manquante échelle de son s'étendait avec l'exécutant pour tout ce qui pouvait aller avec confiance, harmonie, espérance et raison. Il en sortait aussi de l'ubuesque. L'esprit sardonique et brouillon fixé dans cet instrument, sûrement aucun gris-gris ne l'aurait pu empêcher. Il était maintenant trop tard. Une malfaisance incrédule de révolter y était à demeure. Des lames dépareillées, une surtout, brouillonnent entre toutes, fer forgé, eût-on dit par la malfaisance, pour provoquer malfaisance et perturbation, faisait sensation. Cette indépendante, je trouvais fascination à l'introduire parmi les voisines, chantantes relativement. D'une malfaisance souveraine et sans remède, elle recelait un esprit mauvais, que peut-être un garnement en l'absence de forgeron du patron avait précipitamment forgé. de cet inventeur inconnu, je recueillais médusé la trouvaille inattendue, fruit d'un essai sommaire. Les cinq chantantes, je les laissais un peu de côté, puisque insuffisantes pour composer un tissu musical délibéré dont seulement elles donnaient l'envie. J'aimais surtout quand elles avaient paru aller avec telle ou telle des indépendantes qui, aussitôt, évidemment, y faisaient une brèche dont le morceau ne se remettait pas et qui ne pouvait plus être comblé. Et le tout, super préparé, tombait avec l'avenir envisagé. Lorsque, longtemps après, je repris l'instrument pour en jouer, je ne le reconnus pas. Ce petit brutal, fait pour exprimer seulement patatras, pour exécuter à chaque instant un tête-à-queue complet, coucou dans un nid de chardonneret, lequel éjecte sans pitié les jeunes oisillons trouvés au nid de vrais parents, n'en laissait plus rien paraître. Ce que j'entendais était tout différent. Et je ne l'aurais pas cru possible, surtout lorsque je tenais les yeux fermés pour n'être que tout oreille. J'étais malmené ailleurs. On aurait dit des bruits d'eau, dans des gouttières, dans des canalisations, y tournant, y débouchant, mais sans violence ni grande difficulté. Séquence certes toujours absente, mais ayant cessé de déranger et d'être malvenue. Nous étions remis. À quoi, à qui ? Il restait un instrument aux faibles moyens. Pour créer mes ententes, ce n'était donc pas une languette dont je disposais, mais trois ou quatre des suivantes qui, à leur tour contaminées, perdaient leur possibilité dont n'apparaissait que le premier appel, jamais la suite. Jusqu'au bout, la musique de cet instrument était bien le contraire de l'habituellement recherché. Contre l'attendrissement, contre sa banalisation surtout, si fréquent en musique, c'en était la mise en garde incorruptible. Hors série, il y avait encore un cri d'étranglé qui va crier, mais ne le peut, expression devant laquelle tout autre devenait artificiel. Une des lames, anormalement rentrée, que le doigt trouvait difficulté à joindre, était la cause de ce son déserteur, pouli qui soudain lâche. Mais, en la malmenant, on ne pouvait l'amener à un autre effet qu'à ce cri étrange, aussitôt rentré, étouffé. Le cri du gamin désobéissant, pensais-je. Son dernier cri, lorsqu'on l'attrapa avec le produit de son larcin. C'est ce cri qu'on entendait, qu'on lui avait brutalement rentré dans la gorge. Ensuite, passé par magie dans le fer maudit. Oh. Résonance sur Radio B, Henri Michaud, une vocation de passeur de musique. Et là, nous venons d'entendre une œuvre du compositeur italien Jacinto Celci, qui est né en 1905 et mort ensuite à Rome en 1988, avec un extrait des Cantiques del Capricorno, une des célèbres œuvres justement de Jacinto Celci. Et là, nous avons entendu le chant numéro 1 pour voix et donc gong, interprété par la célèbre aussi artiste Michiko Yarayama, et qui était vraiment une des interprètes importantes de Jacinto Celci, dont il avait écrit pour elle justement ce cycle des Canti del Capricorno. Alors s'il est une figure toutefois qui ressort sensiblement justement de cette liste d'affinités musicales que pouvait avoir donc Henri Michaud, celle du compositeur italien Jacinto Celci, avec lequel Henri Michaud partagea vraiment une réelle amitié. Et les deux artistes s'honoreront justement d'un jeu d'hommage croisé, l'un entreprenant de faire jouer à Paris les œuvres de celui-ci dont il estimait que la musique était aimantée par l'ineffable, l'autre composant son cinquième quatuor à la mémoire de l'acteur. S'il convient toujours de nommer Henri Michaud de la sorte uniquement. Voilà pour cette émission consacrée à Henri Michaud, passeur de musique. J'espère que cela a pu vous faire découvrir une facette de cet important écrivain, mais aussi musicien. On pourra parler aussi, peut-être dans une prochaine émission, de son intérêt pour la composition et de comment celui-ci s'est aventuré dans ce domaine. La présente émission de Résonance sera rediffusée mardi prochain de 13h à 14h, puis dimanche de 20h à 21h. Vous pouvez bien évidemment réécouter cette émission quand vous le voulez ou vous le souhaitez en effectuant les podcasts sur le site de Résonance Contemporaine, www.resonancecontemporaine.org, ou sur le site de Radio B, www.radio-b.fr. N'hésitez pas, bien évidemment, à nous laisser vos commentaires sur la page Facebook de Résonance Contemporaine. Et bien voilà, je vous souhaite une très belle journée sur Radio B. Je vous dis à très vite et continuez de prendre soin de vous.